Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Olivier Matona. Olivier a écrit un livre sur l'épreuve de l'infertilité qu'il a traversée 7 années durant avec sa femme Joséphine. Il en existe pas mal de témoignages sur ce sujet, mais celui-ci m'a particulièrement frappée. Déjà parce qu'il était écrit par un homme, ce qui est rare, mais aussi parce que c'est vraiment un très beau témoignage, profond et limpide, qui reste en mémoire. Aussi, il était évident pour moi qu'Olivier devait témoigner pour Un beau jour, et je le remercie d'être ici. Donc bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'être ici.
Avec plaisir.
Alors pour commencer, je t'ai demandé d'apporter un objet en lien avec l'histoire que tu vas me raconter. Quel est-il ?
L'objet que j'ai apporté, c'est un carnet. Un carnet que nous remplissons avec Joséphine, qui est mon épouse depuis 7 ans, à chaque anniversaire de mariage. On s'est mariés un 15 août. Et depuis, à chaque 15 août, on a un peu ce rituel de remplir ce carnet dans lequel, parmi d'autres choses, on fait le bilan de notre année et puis on a pris l'habitude de se demander quelle était la grâce et la crasse de notre année. La grâce, ça veut dire qu'est-ce qui a été beau, qu'est-ce qu'on a apprécié dans cette année, qu'est-ce qu'on voudrait refaire l'année suivante. Et la crasse, c'est se demander qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est blessé l'un l'autre et puis éventuellement qu'est-ce qu'on veut changer. On s'est dit le jour de notre mariage que si un jour on devait déménager, on devait changer de vie, eh bien, notre bilan de l'année, le jour de notre mariage, pourrait être l'occasion de prendre ce genre de choix. Et donc, dans ce carnet, on écrit ce genre de choses, les rêves qu'on a, et on fait le bilan aussi de ce qu'il faudrait changer.
Et pourquoi avoir choisi cet objet ?
J'ai choisi cet objet parce que, en fait, ça nous permet de relire le temps qui est passé, de ne pas se laisser balader par les événements, de reprendre notre vie en main, en fait, de pouvoir être vraiment acteur de ce que nous vivons.
Et justement, je pense que ça a été très important pour vous parce que vous avez traversé une épreuve, Joséphine et toi, assez douloureuse. Est-ce que tu peux raconter, pour ceux qui n'auraient pas lu ton livre, Attendre et espérer, ce qui vous est arrivé à Joséphine et toi, ce que vous avez découvert peu de temps après votre mariage ?
Nous avons connu pendant 7 ans la douloureuse épreuve de ne pas avoir d'enfant. C'était un parcours très long, très difficile. Ce qu'il y a de particulier avec cette difficulté, avec cette épreuve, c'est que il n'y a pas un moment en fait où on devient un couple sans enfant. C'est quelque chose de progressif, j'allais dire un travail progressif de se reconnaître comme couple sans enfant. On pense toujours que c'est les autres, que nous ça va aller. Et puis un jour on se rend à l'évidence. On n'a pas d'enfant et c'est une difficulté. Et ça a été notre croix pendant 7 ans. On a essayé de traverser ça avec tout ce que ça implique de renoncement, de violence aussi parfois. Il y a différentes étapes dans cette souffrance-là, qui est une souffrance au long cours, avec des creux, avec des moments où ça va un peu mieux et des moments où on replonge. Et on a vécu ça pendant 7 ans. Et il y a vraiment des moments où on a cru que ça durerait toujours, en fait, au sens où le moment un peu brûlant du début, où c'est très ardent comme douleur, où ça prend par surprise, où c'est comme si on se prenait un coup de poing dans la figure, on a l'impression que ça va durer toujours. En fait, c'est pas le cas. Il y a des moments où en fait, ça va mieux, où on, pour plein de raisons, on consent un peu. Et puis, voilà, c'est une souffrance qui est un peu pernicieuse parce qu'elle va, elle vient. Il y a des moments où c'est extrêmement intense et puis d'autres moments où c'est plus distant.
Alors, si on revient au tout début, je crois qu'en fait, ça a été très douloureux, notamment parce que vous y attendiez pas du tout, c'est ça ?
En fait, personne s'attend à ça. quand un couple se marie et qu'il a le désir d'avoir des enfants, il imagine que ça prend quelques mois, quelques semaines dans le meilleur des cas, et quelques mois au plus long, mais personne ne se dit pour lui-même que l'attente va être une souffrance. On a toujours l'impression que c'est un truc pour les autres qui ont plein de raisons, peut-être qui ont des difficultés médicales très particulières, peut-être que personne l'imagine pour soi, mais parce que personne n'imagine le malheur pour lui-même. Et donc c'est vrai que au départ, on n'y a pas cru, en fait. On s'était dit que nous, ça irait, et que il suffisait d'attendre encore un petit peu, et puis quand encore un petit peu, ça devient 2 ans, 3 ans, en fait, on réalise et on accepte. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'acceptation, de plus vivre dans le déni, en fait, de plus penser que ceux qui sont en attente d'enfants, ce sont ceux qui attendent depuis au moins un an de plus que nous. Je dis à un moment dans le livre que on pense qu'un vieux, c'est quelqu'un qui a 10 ans de plus que soi. Et j'ai découvert que être un couple sans enfants, c'est parfois avoir pensé que ceux qui attendent depuis plus d'un an que nous, c'est grave, mais nous, ça va quand même. Et en fait, non. En fait, il y a un moment où on se rend à l'évidence, on réalise que cette souffrance fait partie de nous, que ça nous dépasse, qu'on ne le veut pas, qu'on voudrait la mettre très, très, très loin de nous. Mais non, en fait, ça y est, c'est une part de notre vie.
Quand est-ce qu'est arrivé ce moment, en fait ?
C'est peut-être ça qui est paradoxal, c'est que à la fois je dis qu'il y a un moment où on réalise que c'est le cas, et en même temps je ne peux pas décrire ce jour-là. Il n'y a pas un jour, en fait. Il y a plutôt une phase, il y a plutôt une étape. Mais contrairement à d'autres souffrances qu'on peut nommer précisément dans le cas d'un deuil, il y a un jour tragique où l'être qu'on aime est mort. Dans le cas d'autres souffrances, il y a un jour où on apprend par exemple un diagnostic médical ou autre. Dans notre cas, il n'y a jamais eu un jour. Il y a eu un moment qui a duré assez longtemps. Je ne pourrais même pas d'ailleurs le définir dans le temps. Il y a eu une étape pendant laquelle on s'est dit, en fait, voilà, on y est, mais sans que ça soit nommé précisément dans le temps.
Et quels sont les sentiments que vous éprouvez, du coup, à ce moment-là, Joséphine et toi ?
Beaucoup de choses assez différentes. On éprouve de la violence. Là, pour le coup, cette violence, elle peut survenir de façon très ponctuelle et pour des choses très, très différentes. Là, je parle peut-être plus en mon nom qu'en celui de Joséphine. Il y a parfois des moments où, presque par surprise, sans qu'il y ait aucun événement qui le justifie, mais j'ai parlé d'un coup de poing dans le ventre tout à l'heure, c'est vraiment ça que je ressentais. Quelque chose de très injuste, de vraiment violent. Il n'y a pas de terme plus précis que ça. Parfois, c'était explicable, c'est le fait de croiser un enfant, un bébé, de se dire que c'est pas le sien et que peut-être que jamais on connaîtra ça. Ça, c'est violent. Parfois, c'est simplement le fait de se projeter dans l'avenir, de dire, tiens, ce sera quoi ma vie dans 10 ans, et de se dire que peut-être dans 10 ans, la vie ressemblera exactement à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et ça peut être très dur. Voilà, il y a plein de choses, en fait, qui peuvent susciter cette violence. Et puis, il y a de la tristesse, bien sûr. Une tristesse qui a ceci de difficile, que en fait on se sent très seul. C'est une tristesse de la solitude, une tristesse de se sentir parfois incompris, y compris de la part de ceux qu'on aime. Sentiment que les autres ne réalisent pas, en fait, ce que ça veut dire. Les autres se disent que allez, ça va aller, mais en fait non, ça va pas. Et peut-être que ça va durer toujours. Et ça, c'est difficile de réaliser que ce qu'on vit maintenant, et qui est vraiment parfois horrible, se dire que peut-être ça sera comme ça toujours, ça, c'est vraiment extrêmement difficile.
Et puis, tu es croyant. Niveau foi, du coup, est-ce que tu en veux à Dieu à ce moment-là ?
Je vais parler en mon nom. Personnellement, j'en ai jamais voulu à Dieu. J'ai jamais cherché d'explication, de raison, de sens à la souffrance. Simone Veil dit une phrase que je vais mal traduire, c'est pas une citation exacte, mais elle dit que dans la foi chrétienne, Dieu ne donne pas un sens à la souffrance, mais il lui donne une fonction, la fonction du salut. Et moi, je me suis vraiment raccroché à ça, au fait que Dieu n'y était pour rien. Dieu ne voulait pas ça. Il y avait aucune vocation particulière à chercher dans cette souffrance. Il n'y avait pas de sens à lui donner. Pour Joséphine, ça a été plus difficile. Elle s'est demandé, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose? Est-ce que ce n'est pas une signification de je sais pas quoi, une vocation, un appel particulier? Moi, ça ne m'a jamais travaillé. Et pour Joséphine, ça a été important, je crois, d'affronter cette question, de se demander, est-ce que on peut faire quelque chose avec ça? Est-ce que Dieu nous dit quelque chose ou pas? Et une fois qu'elle a eu dépassé ça, ça lui a été précieux. Moi, j'en ai pas eu besoin. En tout cas, j'ai pas réfléchi en ces termes. Peut-être que j'ai pas assez réfléchi d'ailleurs, mais en tout cas, vraiment, j'ai pas pensé comme ça. Et j'ai plutôt pensé que Dieu probablement souffrait avec nous de ça.
D'accord. Tout de suite, tu as pensé que Dieu était au centre de votre épreuve?
Oui. Alors, ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire que c'est pas douloureux. Je crois pas du tout un Dieu magique et que tout est simple quand on est croyant, loin de là. Parfois ça a été difficile, mais en tout cas pour moi ça n'a jamais remis en question l'existence de Dieu et j'ai pas été ébranlé dans ma foi. En tout cas je crois pas refaire l'histoire en disant ça aujourd'hui. Mais peut-être c'est aussi mon tempérament dans une difficulté comme ça, d'avancer sans trop regarder à droite et à gauche, mais d'avancer petit à petit, hein, avec simplicité, mais sans trop effectivement chercher des choses très compliquées.
Mais du coup, avec Joséphine, j'ai l'impression que vous n'avez pas la même manière d'aborder cette épreuve. Et effectivement, quand il y a une grande douleur, le risque, c'est que le couple vivent des vies assez parallèles, voire même finissent par exploser malheureusement. Comment vous avez vécu cette épreuve en couple?
Avec Joséphine, on est une bonne équipe. On est vraiment une équipe et on s'est soutenus en fait. Quand à des moments pour moi c'était violent, quand pour moi c'était trop dur, elle, parce qu'elle a une joie de vivre incroyable, elle me tirait vers le haut. Et quand, pendant toute une phase, elle pleurait beaucoup, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quasiment tous les jours, moi, j'ai essayé de tenir pour elle. Et en fait, on s'est soutenus. C'est vrai que beaucoup de couples se trouvent séparés, même simplement dans leur relation, sans qu'il y ait une vraie séparation physique, mais en tout cas, il y a une distance qui se creuse dans leur relation. Nous, ça n'a jamais été le cas. À la fois, c'est une chance. Parce que pour une part, c'est quelque chose qu'on a reçu, qui nous dépasse, et en même temps, on l'a travaillé. C'est quelque chose pour lequel on s'est donné des moyens. Par exemple, le fait que chaque lundi soir, on prend un temps tous les deux gratuit. En fait, quand on est un couple sans enfants, on pourrait croire qu'on a tout le temps pour nous deux, pour notre couple, pour faire des choses sympas. Et ce n'est pas toujours le cas. Quand on vit à deux, et juste à deux, entre guillemets, la tentation peut être grande d'oublier de prendre des moments de qualité, comme on dit, des moments sympas, et donc de peu en peu de devenir des colocataires, des gens qui vivent dans le même lieu mais qui partagent plus grand chose. Et nous, on a veillé à ça, on a essayé d'y veiller en tout cas. Et chaque lundi est un moment de ressources pour nous. C'est un moment pendant lequel on fait des choses différentes. On appelle ça le lundi c'est interdit, parce que c'est interdit de faire des choses pénibles. Donc le lundi, chez nous, on ne passe pas l'aspirateur, on ne remplit pas des documents administratifs, on ne fait rien de désagréable ou rien de trop quotidien, on fait quelque chose qui nous amuse, on fait un jeu de société, on regarde un bon film. Quoique ça, on ne le fait pas trop, parce que regarder un film, ce n'est pas être ensemble. Voilà, on préfère vraiment quelque chose qui nourrit notre relation et qui nous permet d'être ensemble et de vraiment faire grandir notre amour.
J'allais justement vous demander à Joséphine et toi, même si Joséphine n'est pas là, je sais que tu parles beaucoup en son nom, quelles étaient les sources de consolation, les moyens de réconfort pour respirer?
C'est une bonne question. Les sources de réconfort, c'était déjà de passer ces moments à deux, privilégiés le lundi, mais à d'autres moments aussi. On a appris à savoir qu'est-ce qui nous faisait du bien, qu'est-ce qui était bon pour nous. Et Et par exemple, on a eu l'occasion de faire des voyages. On a, puisque nous n'avions pas d'enfants, nous étions quelque part libres comme l'air. Et on a eu la grande chance à plusieurs reprises de faire des voyages à des moments où les gens qui ont des enfants les accompagnent à l'école, etc. Nous, on a profité de ce malheur, en quelque sorte, pour faire des voyages. Ça nous a fait du bien.
Et est-ce que donc la foi est un réconfort dans cette épreuve ?
Oui, la foi est un réconfort. Bien sûr, la foi est un réconfort. Pour autant, je dois dire que notre foi a évolué au cours de cette épreuve. Je crois que quand on souffre, la foi change. Peut-être que notre foi, tous les deux, était plus légère auparavant, peut-être plus enfantine au sens noble du terme. Et avec cette épreuve, elle a peut-être pris un peu de densité, un peu de gravité aussi. Pour autant, je crois qu'elle s'est... elle ne sait pas du tout... elle ne sait pas... comment dire ça ? Elle a pris de la densité, mais sans pour autant être devenue cynique. On n'est pas devenu des gens qui regardent la foi avec distance comme un truc pour les autres, ceux qui ont la vie facile. Au contraire, ça a été une foi qui, j'espère vraiment, a pris un peu de la densité avec cette épreuve.
Tu pries différemment aujourd'hui ?
Oui, je prie différemment parce que aujourd'hui, je crois que je comprends un peu mieux ceux qui souffrent. C'est pas un permis de quoi que ce soit. J'ai pas le badge de celui qui a souffert. Ça me donne aucun droit. Mais ayant souffert, je crois que j'ai plus de compassion pour ceux qui souffrent. Il y a un psaume qui dit que un pauvre crie, le Seigneur entend. Et quand on est ce pauvre, ça donne un autre aspect à la foi.
Mais tu dis que ta foi n'a jamais vacillé, c'est comme ça, c'est ton caractère. Mais quand même, du coup, le Seigneur ne répondait pas à votre prière. J'imagine que vous avez prié pour avoir un enfant et le Seigneur ne répondait pas. Comment vivre cette absence de réponse ?
Ça, c'est vrai qu'on a beaucoup prié pour ça, évidemment. On prie toujours pour ce qui est important et avoir un enfant quand on est un couple et qu'on désire avoir un enfant, c'est ce qui est très très important. C'est parfois même ce qui prend toute la place. Donc bien sûr qu'on a beaucoup prié pour ça et qu'on a fait beaucoup de démarches spirituelles dans ce sens. On a fait, je crois, toutes les neuvaines qui existent dans l'Église catholique et on connaît à peu près tous les lieux de pèlerinage de France, de Navarre et d'ailleurs.
Vous pouvez faire un petit guide.
Ah oui, je crois que effectivement c'est une bonne idée. Je vais peut-être faire un guide sur les démarches spirituelles. Mais plus sérieusement, je dirais que cette épreuve nous a permis de nous recentrer sur le cœur de la foi sans du tout minorer le reste. J'ai beaucoup d'affection pour la dévotion populaire. J'aime beaucoup cette manière de prier. Et peut-être que cette épreuve nous a aussi permis de nous recentrer vraiment sur l'essence même de la foi, sur Jésus de Nazareth et sur des choses simples. Dieu est mon Père, ça j'en ai jamais douté. Et peut-être qu'à des moments où c'était plus dur, je me suis vraiment centré sur ces fondements-là et parce que j'avais plus le courage, plus l'énergie pour m'investir dans plein de choses très, très belles mais qui me paraissaient peut-être trop compliquées ou trop difficiles. Je me suis vraiment centré sur des choses basiques, simples.
Malgré donc cette absence d'enfant, vous refusez de faire une PMA ou une FIV ou ce que la médecine propose à des couples dans la même situation que vous.
Oui, alors c'est une manière de le dire. On refuse effectivement ça, mais je crois qu'on choisit une autre manière de faire qui n'est pas du tout un refus de la médecine. Ça me semble important de le dire. C'est pas parce que, comme nous, on fait le choix de ce critère-là qui est le nôtre et qui est celui que l'Église propose à différents moments. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de ne pas dissocier la relation sexuelle de la procréation, ce qui exclut effectivement certaines démarches de PMA, voire un grand nombre de ces démarches, dont la FIV. Pour autant, ce n'est pas du tout un refus de la médecine. Par exemple, nous avons été accompagnés par la naprotechnologie, La protechnologie qui est un terme trop compliqué, qui veut dire natural procreation, la procréation naturelle. C'est une approche à la fois extrêmement médicale. Il faut savoir qu'il y a peu de recherches sur l'infertilité. C'est bien dommage, mais parce qu'il y a d'autres palliatifs, c'est un sujet qui intéresse trop peu les scientifiques. Mais quelques scientifiques tout de même font des recherches. C'est le cas de ceux qui travaillent pour la NAPRO. Et on a été accompagné dans ce cadre-là, et c'est un accompagnement qui a été extrêmement important pour nous, parce que, comme je viens de le dire, il est à la fois très, très en pointe sur les sujets techniques de médecine, et en même temps, c'est un accompagnement très humain, très intégral, au sens de être accompagné dans toutes les dimensions de notre couple. On n'a jamais été vu comme simplement des patients à soigner, mais comme des personnes. J'ai par exemple été toujours très touché que le médecin qui nous accompagne à chaque début de rendez-vous nous dise « Comment vous allez ?» Ça paraît rien, c'est un tout petit quelque chose, mais qui est très important quand on souffre comme ça.
Quel rôle a joué votre entourage dans cette épreuve ?
Au début, notre entourage n'a pas joué de rôle, mais à cause de nous. Au départ, nous n'en parlions absolument pas à personne. C'était un non-sujet. Et je crois qu'il aurait été assez malvenu de la part de notre entourage de nous en parler. Je ne l'aurais pas bien pris du tout. Parce que pour nous-mêmes, ce n'était pas un sujet. En fait, on ne voulait pas que ça en soit. On ne voulait pas en parler. Et puis, ensuite, notre entourage a essayé de nous en parler et on a continué à ne pas vouloir en parler. On a mis un peu tout le monde à distance parce que pour nous c'était trop douloureux et on ne voulait pas affronter les conseils, affronter les recommandations. Voilà. Et donc, au départ, notre entourage n'a pas joué de rôle. Et puis un jour, on a crevé l'abcès. On a accepté de prendre les perches qu'ils nous tendaient. Et à partir de là, ils ont eu un rôle à la fois important et à la fois distant. C'est-à-dire que on leur a demandé de respecter le fait que parfois on serait d'accord pour en parler, d'autres fois non. Et puis surtout, on leur a proposé une règle, c'était qu'ils pouvaient nous poser toutes les questions qu'ils voulaient, mais nous, on répondrait aux questions qu'on voulait. Ce qui nous permettait de pas tout dire, parce que c'est pas parce qu'on aborde un sujet intime que tout est permis. Il y a des choses qu'on voulait pas aborder, qui étaient notre intimité. Dès lors que des questions étaient trop médicales, on a toujours refusé d'y répondre, ou en tout cas, pas toujours, ça dépendait qui. Et de peu en peu, notre entourage a compris que, oui, on avait besoin d'en parler parfois, mais pas tout le temps.
Et est-ce que vous avez du coup des lieux de ressourcement, parce que donc, l'entourage, effectivement, c'est pas toujours facile, voilà. Est-ce que vous avez des lieux de ressourcement ?
Alors, l'amitié a toujours été quelque chose d'important pour nous. Et pour nous, c'était important de rester des amis, de ne pas être le couple sans enfants, mais de rester Joséphine et Olivier avec nos amis et de, voilà, qu'on puisse vivre des choses sympathiques, agréables, comme on en vivait avant d'être identifié comme le couple sans enfants. C'est d'ailleurs probablement ce qui a fait que pendant longtemps, on a refusé de parler de ce sujet parce qu'on ne voulait pas être catalogué de cette façon. On ne voulait pas être les pauvres qu'on regarde avec un regard apitoyé ou un peu larmoyant. Voilà, on ne voulait pas ça. Mais une fois qu'on a dépassé ça, ouais, l'amitié a été toujours quelque chose de très important et de continuer à alimenter ces amitiés, de vivre des choses avec ceux qui nous sont chers, de partir en week-end, de faire des choses que font les gens normaux, en fait.
Et à un moment donné, vous avez comme un déclic, vous écrivez dans ce fameux cahier, je crois, des grâces et des crasses, que nous n'allons pas attendre pour être heureux, nous choisissons de l'être dès à présent. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'être heureux dans la souffrance ?
Aujourd'hui, je peux dire que oui, mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a pris du temps d'écrire ça dans ce cahier. Ça paraît rien, ça paraît un peu facile, peut-être même de la méthode Coué, mais en fait, ça a été un travail long, patient d'arriver à ça. La difficulté du fait d'être un couple sans enfant, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une salle d'attente. On a l'impression que on est en attente de quelque chose qui viendra, et quand ce quelque chose, ou plutôt ce quelqu'un viendra, ça y est, tout sera résolu et on pourra enfin vivre pleinement. On pourra enfin se réjouir, notre vie sera simple et heureuse et tout ira bien. Et puis en fait, on réalise que c'est faux, que c'est un mensonge, qu'on n'a pas besoin que tout soit résolu, que tout soit... que tout se passe comme on veut pour être heureux. D'ailleurs, qui peut dire que tous ses rêves sont assouvis ? C'est personne, en fait. Et on a essayé de prendre ce contre-pied-là, de dire, bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas encore au point dans nos vies, qu'il y a des choses qui nous manquent, que cet enfant qu'on aimerait avoir nous manque et que c'est douloureux. Mais pour autant, il y a plein de raisons aussi qui font que notre vie est belle, en fait, que des choses se passent bien dans notre existence. Il y a plein de sujets de joie. Il y a bien sûr un grand sujet qui est très douloureux. On ne l'a pas occulté, on ne l'a pas dénié. Mais il y a beaucoup de choses qui font que notre vie va bien et peut-être qu'on pourrait essayer de vivre ça à plein.
Et puis, je crois qu'on peut le dire, au bout de 7 ans, il y a eu cette heureuse surprise.
Cette très heureuse surprise, c'est étonnant. J'ai toujours eu un peu de mal avec ceux qui disent « Vous savez, il suffit de plus y penser pour avoir un enfant. » Si c'était si simple, ça se passerait différemment. En fait, personne ne décrète ne plus y penser. Personne. Comment est-ce qu'on fait pour plus y penser ? J'aimerais bien savoir, en fait... Le cycle féminin fait que chaque mois rappelle l'absence d'enfant, et puis ce désir est tellement ancré qu'en fait on y pense tout le temps. Et donc, en ce qui nous concerne, depuis peut-être 1-2 ans, on avait vraiment consenti à ça. On était d'accord, on avait accepté le fait que probablement toute notre vie on n'aurait pas d'enfant. Profondément, on en était. Convaincu, il n'y a pas de choix là-dedans, mais simplement on avait accepté que nous n'avions pas d'enfant et que peut-être ça serait toujours le cas. Et puis, 1-2 ans après cette acceptation profonde, incroyable, nous attendons un enfant. C'est fabuleux, c'est inespéré, ou plutôt très espéré, mais complètement improbable. C'est un immense cadeau.
On se réjouit pour vous.
Merci.
Est-ce qu'il y a eu dans cette épreuve un livre qui t'a aidé à la traverser, quelque chose de léger ou au contraire quelque chose de profond, ou alors un livre que tu as lu récemment et tu t'es dit « Ah, finalement, si j'avais eu ce livre entre les mains, à ce moment-là, ça m'aurait bien aidé. » Donc, quel est ce livre et est-ce que tu pourrais le conseiller à ceux qui nous écoutent ?
Il y a beaucoup de choses qui nous ont aidés pendant cette épreuve. Des lectures, oui, beaucoup, et puis aussi des rencontres. On a eu la chance d'être toujours reçus par les personnes qu'on a sollicitées. On a interrogé beaucoup de personnes pour leur demander comment faire pour vivre cette étape que nous vivions, et on a été très impressionnés de voir que toutes les personnes qu'on a sollicitées nous ont toujours répondu favorablement.
Vous avez rencontré qui ?
Beaucoup de gens, des anonymes qui vivaient ça. Je pense à un couple âgé qui, après presque 60 ans de mariage, vit aujourd'hui encore l'épreuve de l'infertilité. Et donc, ça a été important pour nous de parler avec eux. On a rencontré des célibataires qui, eux aussi, connaissent l'épreuve de l'absence. On a rencontré des évêques. On a rencontré Tuc Dualderville, le délégué général d'Alliance Vita, qui... a été d'une écoute fabuleuse et qui nous a beaucoup encouragés. Et pour en revenir au livre, il y en a beaucoup qu'on a lu, mais celui qui peut-être synthétise tout ça, c'est celui de Martin Stephens. Son livre en particulier, celui qui nous a marqué, il y en aurait d'autres, mais je pense à La vie en bleu, qui raconte ou qui explique plutôt comment être heureux dans la souffrance, comment est-ce que la souffrance et le bonheur là, ne sont pas antinomiques, mais comment est-ce qu'ils peuvent cohabiter ? Moi, je suis très marqué qu'un jeune philosophe, je ne sais pas quel âge il a, mais je dirais une quarantaine d'années, mais un jeune philosophe réfléchit sur la question de la souffrance. Ça fait du bien quand soi-même on est dans, un peu au fond du gouffre, de voir que des gens de nos âges ou presque réfléchissent là-dessus, c'est encourageant.
Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui écouteraient ce podcast et qui traverseraient la même épreuve que toi?
C'est difficile de donner des conseils. C'est toujours très délicat et j'espère sincèrement ne blesser personne. Peut-être le conseil que je peux donner, c'est plutôt une manière de rassurer, de dire que ceux qui sont vraiment au fond du trou, ceux qui pensent que la violence qu'ils vivent maintenant, la douleur intense qu'ils vivent maintenant va durer toujours, leur dire qu'en fait, c'est pas vrai. Qu'il y a des moments où ça ira mieux. Pas forcément parce qu'ils auront trouvé une solution à leurs problèmes, mais que l'intensité de la douleur n'est pas toujours la même. Je crois que c'est important de le savoir et c'est un réconfort peut-être.
Oui, ça sert certainement, ça donne de l'espoir.
Et puis aussi peut-être un autre conseil pour un couple qui vivrait ça, c'est de ne pas perdre de vue que on ne se marie pas pour avoir des enfants. On se marie pour s'aimer. Et ensuite, ce qu'on désire tous, c'est que cet amour soit source d'une autre vie. Mais même pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre la fertilité, on peut être fécond quand même. C'est pas parce qu'on est infertile qu'on est infécond. Et c'est pas du tout spiritualisant de dire ça. C'est quelque chose qu'on a vécu. On peut vraiment faire l'expérience d'une authentique fécondité, bien sûr extrêmement différente de celle dont on rêvait. Ça, c'est sans ambiguïté. Mais il est possible d'être fécond, c'est clair.
Quelle est cette fécondité que vous avez trouvée, Joséphine et toi ?
La fécondité, en fait, c'est de vivre pour quelqu'un d'autre que soi. C'est que sa vie nous dépasse, qu'on vive pour d'autres, que notre amour soit utile à d'autres, qu'il porte une forme de... qu'il porte du fruit, qu'il soit fécond. On a trouvé plusieurs lieux de, je l'espère, de fécondité, en tout cas plusieurs lieux dans lesquels on s'est donné. Par exemple, je pense à Esperanza. Esperanza, ce sont des week-ends que nous avons lancés avec Joséphine. Esperanza part d'un constat, c'est que quand on est un couple sans enfant dans l'Église catholique, on est assez seul. Parce que souvent, les laïcs dans l'Église, c'est soit les jeunes, soit les familles. Et quand on est plus très jeune, et quand on n'est pas une famille au sens où beaucoup l'entendent, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, c'est difficile de trouver sa place. Et puis, on a aussi remarqué que ceux qui font le choix de ne pas dissocier l'union sexuelle de la procréation se sentent encore plus isolés parce que c'est difficile de faire ses choix, c'est difficile de se sentir soutenu là-dedans. Et on s'est dit que peut-être si on proposait simplement un temps de rencontre, un week-end sympa avec des couples qui vivent cette même épreuve, on pourrait se soutenir, s'encourager. Et on a donc lancé ces week-ends qui sont tout sauf des week-ends pour infertiles anonymes. Parfois, on a l'impression que organiser une rencontre entre personnes qui ont en commun seulement une souffrance, ça va être un peu l'angoisse. Je peux assurer que ces week-ends sont tout sauf des week-ends tristes. On y rit beaucoup. C'est vraiment comme un week-end entre amis, sauf que le vendredi soir, quand on se rencontre, on ne se connaît pas encore. Mais une fois que la glace est brisée, on passe vraiment d'excellents week-ends.
Super. Et pour terminer, je t'ai demandé d'apporter ta prière préférée. Quelle est-elle ?
C'est une prière de Sainte Thérèse de Lisieux, sur la vie au quotidien. C'est une prière qui nous a beaucoup aidé avec Joséphine, parce que il y a des moments où on a besoin de vivre juste un jour à la fois, ou plutôt il faut se rappeler qu'il faut vivre juste un jour à la fois. Et c'est une prière qui nous a donc beaucoup aidé. Ça s'appelle « Mon chant d'aujourd'hui ». Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Je la refais. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ô, je t'aime, Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui.
C'est magnifique. C'est vrai que quand on n'a pas prise sur les événements, peut-être que la seule manière de changer les choses, entre guillemets, c'est de changer notre regard et notre cœur.
Oui, c'est vrai. De pas... Puisque, effectivement, on ne peut rien faire pour changer les choses. La seule chose qu'on peut faire, c'est se changer soi-même. Je partage tout à fait ce constat. D'être... d'accord en fait pour ce qui se passe, d'acquiescer, c'est pas du tout un fatalisme, c'est pas du tout du quiétisme non plus, c'est simplement changer le regard sur ce qui se passe pour essayer d'en faire quelque chose de beau en fait.
Et ma toute dernière question, c'est si le Christ était là, si le Seigneur était là à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dirais vis-à-vis de l'épreuve que tu as traversée?
Ce que je lui dirais, c'est de le remercier d'avoir... accepter de souffrir la croix, parce que quand on souffre, de savoir que Dieu lui-même a souffert, c'est une vraie consolation. Et puis, je lui dirais merci d'être le Dieu de la vie, en fait, d'avoir dépassé cette croix, d'avoir montré que la croix n'était pas le tout, c'était pas un point final, mais que cette croix pouvait être dépassée, quelle que soit la manière, mais que la croix n'était pas le fin mot de l'histoire.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très contente de recevoir Olivier et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcasts-fc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement. Vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Olivier, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcasts, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt !